Bonjour, c'est une double découverte que je vous propose cette semaine dans Évasion Romanesque avec la biographie de Camille Urso, première artiste féministe, et Bénédicte Flis-Sainte-Marie, l'autrice de « Je suis née au son du violon ». Bénédicte est née à Bordeaux dans les années 70. Elle se dirige d'abord dans des études d'histoire qu'elle mènera jusqu'à la maîtrise. Puis, sans doute en raison d'un caractère curieux, emprunte la voie d'une école de journalisme. À la fin de ses études, par choix délibéré, elle se lance dans cette aventure en freelance et travaille aujourd'hui encore pour de nombreux magazines. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà lu son nom au bas d'articles parus dans Téléstar, Top Santé ou Ma Famille Zen, pour n'en citer que quelques-uns. Bénédicte se lance dans l'écriture en 2018 et a déjà publié 3 essais. C'est par hasard qu'elle découvre le nom de Camille Urso au gré de la lecture d'un livre d'Anne et Claire Berest. Piquée de curiosité et d'intérêt pour cette femme hors du commun et en avance sur son temps, elle fait des recherches sur ce personnage et, impressionnée par sa vie incroyable mais oubliée, elle décide d'en écrire sa biographie. Au terme d'un an et demi, elle accouche de ce livre passionnant « Je suis née au son du violon » ou « La vie de Camille Urso, première musicienne féministe ». Ce jour-là, Camille saisit un rare moment d'accalmie dans l'emploi du temps de sa mère, Émilie, pour lui demander s'il était imaginable qu'une fille puisse jouer du violon. Mais pour sa mère, l'idée était aussi incongrue que de vouloir construire des maisons ou d'allumer des réverbères. En ce 19e siècle à moitié consommé, il était en effet encore inconcevable pour un membre du sexe faible d'imaginer s'aventurer dans ce domaine. Si le piano était toléré et même encouragé chez les femmes, car il permettait d'adopter une attitude sage et gracieuse tout en étant un agrément non négligeable, il aiguisait la curiosité des prétendants pour les jeunes filles en quête d'un bon parti et égayait la vie mondaine du couple chez celles qui avaient déjà la bague au doigt. Tous les autres instruments étaient exclusivement dévolus aux messieurs. Par la gestuelle qu'ils imposaient et leur image maritale, les trompettes, clarinettes et autres hautbois ne devaient être maniés que par la gent masculine. Il en allait de même pour le violon, qui exigeait, si l'on en croit les mœurs de l'époque, une fougue qui altérait la physionomie faciale de la musicienne. Mais lorsqu'à 7 ans, on est touché par la grâce du violon, que nos parents, eux-mêmes dans la musique, très ouverts d'esprit pour l'époque, nous permettent de réaliser notre rêve et que le caractère qui nous anime nous permet de persévérer malgré toutes les embûches qui se profilent, aucune difficulté n'est insurmontable et le travail acharné que demande la pratique de cet instrument n'est pas une corvée. Loin de là. C'est ainsi que Camille, nantaise, de naissance, part avec son père pour la capitale et intègre le Conservatoire de Paris, école exclusivement réservée aux hommes pour l'époque. Mais face au talent de cette petite fille, il est juste impossible de lui refuser l'entrée dans ce cercle fermé. C'est donc diplômée du conservatoire qu'elle en sort quelques années plus tard, et ce qui aurait pu mener la famille Urso à leur perte se révèle finalement la clé d'une carrière exceptionnelle et d'une vie qu'aucun des membres du foyer n'aurait pu imaginer. Sous prétexte d'un contrat outre-Atlantique pour la petite Camille, père et fille embarquent sur un navire, traversent l'océan et doivent faire face à la grande désillusion puisque rien n'est organisé pour lancer la carrière de la fillette et que seul Salvatore, le père Urso, va trouver le moyen de faire embaucher son enfant dans des tournées musicales. Ainsi, face au prodige de Camille, à sa manière angélique d'interpréter les partitions, elle enchaîne les contrats et ne cesse de jouer avec les plus grands du moment. Elle permet aussi à sa famille, au grand complet, de se retrouver à New York et de vivre très correctement. Les années passent, les tournées s'enchaînent, Camille se marie, fait des enfants, mais n'arrête pas pour autant de jouer du violon. Les journaux l'encensent partout où elle passe. Elle ravira les publics d'Amérique, mais aussi d'Europe, d'Afrique, d'Océanie. Et elle ouvre la voie aux jeunes filles qui, comme elle, auraient la prétention de vivre de leur instrument. Au seuil de son demi-siècle, Camille n'avait plus rien à démontrer. Elle avait relevé le défi presque impossible de faire accepter qu'une femme devienne violoniste professionnelle, fait imploser aussi le moule qui voulait qu'une artiste doive s'effacer derrière son époux et abandonne sa profession une fois mariée. Et les angoisses sur l'avenir qui l'avaient tenaillée quand elle débutait et devait subvenir aux besoins de sa famille s'étaient depuis longtemps apaisées. Mais elle sentait confusément que le mode de vie qui était depuis longtemps le sien ne nourrissait plus suffisamment ce qu'elle était. L'âme de Camille, comme la pièce du même nom des violons, avait besoin de nouvelles cordes pour vibrer, celles de la transmission et de l'action collective. Alors, Camille Urso enseigne, milite intelligemment, joue encore, lutte contre les mentalités sexistes, mais un jour de 1902, après une vie si remplie, elle s'éteint des suites d'une péritonite. Enterrée auprès des siens, sa vie n'a jamais été relatée jusqu'à aujourd'hui. Ses œuvres jamais enregistrées, alors que Thomas Edison avait déjà inventé le phonographe. Son nom est passé dans l'oubli, alors que les femmes lui doivent l'accès à tous les instruments, même si on ne dénombre, à notre époque encore, que 6% de femmes chefs d'orchestre et à peine plus de 25% de solistes en jupon. Ainsi que l'a expliqué Laurent Bayle, l'ex-président de la Philharmonie de Paris qui a organisé plusieurs tremplins successifs dédiés exclusivement aux jeunes chefs d'orchestre, certains disent qu'il faut laisser les choses se faire naturellement, mais moi je dis non. Où il y aura encore des générations sacrifiées de musiciennes. Il faut agir pour ne plus jamais qu'aujourd'hui une enfant renonce dans ce domaine à ses aspirations, faute de modèle ou d'encouragement. Qu'il n'y ait plus d'avatar moderne de Maria Mozart, alias Nannerl, virtuose du clavecin, de la composition et sœur de Wolfgang Amadeus, dont on sacrifia la carrière de concertiste à 18 ans parce qu'il fallait qu'elle épouse un bon parti et, accessoirement, qu'elle contribue à financer le train de vie de son frère en donnant des cours de piano. Et que l'on accepte, comme le soulignait notre Camille en 1893, que le rêve artistique d'une petite fille équivaut à celui d'un garçon et n'est pas une lubie, ni un caprice, ni un fait rare, encore moins une nouveauté.